soit loué, soit glorifié ce matin, Seigneur. Sois loué, sois glorifié ce matin, Seigneur notre Dieu. Tu as fait tellement de choses, c'est difficile pour nous de rester au tendre et calme. Mais même si nous manquons de mots, mais le cœur a toujours envie de dire quelque chose. La bouche a toujours envie, alléluia, de dire quelque chose pour exprimer tout ce que nous sentons, nous ressentons pour toi. Pour exprimer au tendre et notre gratitude pour toi. Pour exprimer notre reconnaissance, alléluia, envers toi. Oh Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Nos mots sont tellement faibles. C'est pourquoi nous voulons associer nos acclamations pour te dire merci, Seigneur. Nos mots sont tellement faibles. C'est pourquoi nous associons nos acclamations, Seigneur, pour exprimer notre gratitude envers toi, pour exprimer notre reconnaissance envers toi, Jésus. Merci pour la vie. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Glorifie ton Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je sais que la soif est là, la soif d'adorer Dieu, la soif de rester encore dans sa présence pour le louer, l'adorer, le chanter encore. Je sais que la soif est là. Merci Seigneur pour ce matin. Nous tous tels que nous sommes là, c'est vraiment la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce d'être là ce matin. Et il a fait tellement du bien. C'est difficile de compter, c'est difficile de calculer. Et ce matin, par sa souveraineté, il nous a encore donné ses temps. Et en ce qui me concerne, il m'a fait grâce pour que je sois devant vous ce matin. Merci également à notre Père, le pasteur Maurice. Non seulement il est notre pasteur, il est notre papa, mais aussi une bénédiction pour nous. Nous continuerons de le dire parce que c'est ce qu'il est pour nous. Merci de m'avoir aligné au premier service. Quand on est choisi, on est content, mais en même temps, on tremble. Surtout après avoir traversé la convention qui nous a laissé avec beaucoup, qui nous a fait énormément du bien. Des fois, on ne sait plus comment revenir avec les thèmes déjà achevés. L'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, et ça fait trembler des fois. On prie, on cherche, et puis on ne se retrouve pas. Et puis, le Seigneur, heureusement, il est bon. Il nous fait toujours du bien. Amen. Le mercredi, avant la convention, j'étais là au balcon et il y avait le frère Vunda qui était ici en train de donner l'étude biblique. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Mes yeux ont observé ici. Je vis presque tout le monde avait un carnet, un stylo en train de noter. On dit, mais ça là, il n'a pas. J'ai dit, il y a une grande responsabilité quand on est devant pour prêcher. Il y a des gens qui viennent et assoiffés, ils ont besoin de noter quelque chose de la part du Seigneur. Et ça, quand on pense ensemble, on demande la grâce du Seigneur parce qu'on se sent aussi faible de tenir devant des hommes et des femmes, des valets pour apporter la parole de Dieu. Merci d'être là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes les derniers dimanches du mois et de l'année. Dans quelques jours, l'année touche à sa fin. Je ne sais pas quoi vous dire ce matin. Je vais rejoindre la pensée de mon frère. Ne doute pas, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Les écoles sont fermées, les enseignants, les élèves sont en vacances, ils attendent le 6 janvier pour reprendre le cours, mêmement à l'université. Dans certaines entreprises, ils ont déjà clôturé l'année, les rapports sont déjà là, l'exercice 2024. Certains médecins sont en vacances parce qu'ils veulent fêter avec la famille. Mais j'aime notre Dieu, il n'est pas en vacances, il n'est pas en congé, il n'a pas encore clôturé l'année. Même les 31, il peut faire quelque chose dans ta vie. Crois seulement. Même les 31, il peut faire quelque chose dans ta vie. Est-ce qu'on peut bénir l'Éternel pour la fin? Alléluia. Alléluia. Pour la fin, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Il nous conduit vers la fin, mais la fin d'une chose n'est pas forcément la fin de toute chose. Certaines fins nous conduisent au début d'une nouvelle chose. Il nous conduit vers la fin, mais cette fin nous conduit aussi au début d'une nouvelle chose. Que son nom soit béni. Ce matin, nous voulons lire trois textes. Pendant ces quelques minutes, il y a une pensée, j'agitais avec cette pensée que Dieu fait grâce, parce que c'est vraiment un message difficile à préparer parmi les messages difficiles à préparer que j'ai connus. Jonas chapitre 1, les versets 1 à 3, le premier texte, Jonas chapitre 1, les versets 1 à 3, et nous lirons aussi Jonas chapitre 4, les versets 8 à 11. Jonas chapitre 1, les versets 1 à 3, Jonas chapitre 4, les versets 8 à 11, 1 Samuel chapitre 15, le verset 1 à 21. Nous n'allons pas lire le tout, mais c'est bien de noter. Jonas chapitre 1, les versets 1 à 3. Pour ceux qui notent, Jonas chapitre 4, les versets 8 à 11. Et 1 Samuel 15, les versets 1 à 21. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il y descendit à Jaffo, d'autres disent Jaffa, dans la parole vivante et sémère, ou encore Joppé. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers loin de la face de l'Éternel. Le chapitre 4, les versets 8 à 11. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Ça, c'est la deuxième fois qu'il demande la mort. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ressin? Il répondit, j'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ressin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer l'air droite de l'air gauche et des animaux en grand nombre. L'histoire s'est arrêtée ici. Malgré la pensée n'est pas finie, mais l'histoire s'est arrêtée ici. Je disais à Dieu, aide-moi, fais-moi grâce pour que mon histoire ne s'arrête pas là où en principe ça ne devrait pas s'arrêter. Que le Seigneur nous aide. 1 Samuel chapitre 15, le verset 18 à 20. L'Éternel t'avait fait partir à 10 ans. Va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur les butins et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai fait dévouer par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur les butins de brebis et de bœufs comme prémisse de ceux qui devraient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Seigneur, je reconnais ce que tu m'as demandé, mais en réalité, ce n'est pas ça que je fais sur le terrain. Seigneur, aide-nous ce matin à comprendre que c'est vrai que nous pouvons avoir une volonté, mais ta volonté doit être préférable que la nôtre. Aide-nous à comprendre que c'est vrai que nous pouvons avoir une volonté et des fois influencer par la volonté de ceux qui nous entourent. Mais aide-nous à comprendre, peu importe leur influence, seule ta volonté doit être acceptée et vivre au milieu de nous. Fais-nous du bien par ta parole, bénis ton peuple et tiens-moi la main. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous accueillons la parole du Seigneur. La parole de Dieu, c'est une vie. La parole de Dieu, alléluia, est la solution. La parole de Dieu est tout pour nous. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Littéralement, les pauvres ont besoin d'argent et de la nourriture. Mais Jésus parle de la parole. La parole, c'est une richesse. Que Dieu soit béni. Les deux textes de Jonas et de Samuel, C'est vraiment des textes différents qui parlent de deux histoires aussi différentes. Mais dans ces deux textes, il y a quelques points communs. C'est ceux vraiment qui m'ont attiré pour partager avec vous. Jonas, tout comme Saül, les deux ont reçu une mission de la part de Dieu. Jonas, tout comme Saül. Les textes sont différents, les périodes sont différentes, les contextes sont différents, mais nous trouvons quelques points communs. Entre autres, les deux, Jonas, tout comme Saül, ont reçu une mission de la part de Dieu. Jonas est le premier prophète d'Israël, mais Dieu a envoyé pour aller prêcher dans une autre nation. Pas une personne, mais prêcher un peuple. Et Saül est le tout premier prophète établi en Israël comme... Non, le tout premier roi établi en Israël par Samuel. Donc Jonas est le tout premier prophète que Dieu a dépêché. Il l'a pris quelque part et il l'a envoyé pour aller prêcher dans une autre nation. Une nation païenne, pas un individu, mais un peuple. Et Saül est le tout premier roi établi en Israël. Et le deux, dans leur mission, ils devraient exécuter, ils devraient faire la volonté de Dieu. Que ce soit Jonas ou encore Saül, le deux devrait faire la volonté de Dieu. Ce n'était pas une option, mais c'était une obligation. Il devrait faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous parler de la volonté de Dieu avec un thème que j'ai intitulé « La volonté de Dieu sur Ninive ». La volonté de Dieu sur Ninive. La volonté de Dieu sur Ninive. La volonté, par définition, c'est la faculté. C'est la faculté de décider de faire quelque chose. C'est la faculté ou la décision prise par un homme pour faire quelque chose. Je disais la volonté par définition, c'est une faculté de vouloir, de se déterminer pour faire quelque chose. La deuxième définition, c'est la capacité de vouloir faire quelque chose, la capacité de vouloir faire quelque chose. Donc c'est une disposition interne qui pousse l'homme à faire quelque chose. Et en psychologie, la volonté, c'est une impulsion. Impulsion, c'est une force interne qui pousse l'homme à agir. Autrement dit, l'homme ne peut pas agir si à l'intérieur, il n'y a pas une force qui le pousse à agir. Tout acte est motivé par une volonté. Donc l'homme est poussé. Lorsque le cœur est disposé, l'intérieur est disposé, l'homme peut poser un acte parce qu'il a engagé sa volonté. Partant de ces trois définitions de la volonté, et au travers de notre thème, la volonté de Dieu sur Ninive, en s'appuyant sur les deux textes de Jonas, y compris de 1 Samuel. Dans cette introduction, j'aimerais nous parler de quatre phrases d'abord, et ces quatre phrases vont résumer le message de ce matin. On peut même s'arrêter avec ces quatre phrases, nous aurons déjà l'idée du message de ce matin. Quatre phrases. La première phrase, nous pouvons noter, la volonté de Dieu est meilleure que celle de l'homme. Elle peut être floue, ambigu, compliqué, illogique, mais elle est meilleure que celle de l'homme. Aucune volonté humaine sera meilleure que celle de Dieu. La deuxième phrase, la volonté de Dieu a une subsistance, ce qui veut dire la volonté de Dieu est plus puissante que celle de l'homme. La volonté de Dieu est plus forte et plus puissante que celle de l'homme. Non seulement elle est plus agréable que celle de l'homme ou plus puissante que celle de l'homme. La troisième phrase, que Dieu a tous les moyens pour accomplir sa volonté sur la terre. Dieu a tous les moyens pour accomplir sa volonté sur la terre. L'homme peut avoir une volonté, mais il manque les moyens. L'homme peut avoir une volonté, mais contrecarré par un autre homme. Je voulais faire ça, mais X m'a empêché, Y m'a empêché. J'avais déjà disposé dans mon cœur de faire telle chose, mais la nature m'a empêché, il a plu. Je suis tombé malade, il y a tel un événement. La nature peut contrecarrer ou contraindre la volonté d'un homme. Mais Dieu, malgré toutes les circonstances, il a toujours les moyens pour accomplir sa volonté. À la création, il a dit que la lumière soit et la lumière fit. Les ténèbres n'ont pas résisté. Plusieurs fois, Jésus guérissait les malades le jour de sabbat. Et même la loi n'a pas empêché Jésus. Il a dit à la mer, séparez-vous. Et la mer se divisa à deux. Les enfants d'Israël ont traversé. Et il a dit au vent, tais-toi, il y a un grand calme. Et même la nature n'a pas résisté devant la volonté de Dieu. J'ai dans ma mémoire un extrait de la prière de notre pasteur. Avant de prêcher notre Père, dans la série de notre Père, le pasteur a dit ceci dans la prière, il dit, notre Père qui es aux cieux, notre Père tu es dans les cieux et tu veux être présent sur la terre par ta volonté. Tu es dans les cieux,
Mais tu veux être présent sur la terre par ta volonté. Bon, la prière n'a pas une explication. Mais ce que j'avais compris, un homme peut être absent, mais là où on fait sa volonté, il est présent. Alors, comme Dieu veut être présent sur la terre, il ne manquera pas les moyens pour accomplir sa volonté. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, si tu es le canal par lequel Dieu passe pour que sa volonté soit connue sur la terre, bénis Dieu et sois humble. Car l'absence d'un homme n'empêche pas Dieu d'accomplir sa volonté. L'absence d'un homme ne met pas Dieu en difficulté pour accomplir sa volonté. Je vais même aller plus loin pour dire que Dieu a besoin de l'homme. Mais quand l'homme n'est pas là, Dieu n'est pas limité. Il a toujours les moyens pour accomplir sa volonté. Il a toujours les moyens pour accomplir sa volonté. Et la quatrième des phrases, la volonté de Dieu peut être ou paraître contre ta volonté, mais elle ne sera jamais contre ta vie. Des fois, nous avons une mauvaise compréhension de certaines choses et nous voulons tout généraliser. Tu peux être contre un aspect de la vie d'une personne, mais tu n'es pas contre la personne. Tu peux être contre un aspect de la vie d'une personne, mais tu n'es pas contre la personne. Mais des fois, la personne comprend mal. Comme tu es contre un aspect de sa vie, il pense que tu es contre lui. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Un enfant a mal fait à la maison, tu peux le taper, ensuite donne-lui la nourriture. Tu es contre ce qu'il a fait, tu l'as puni, mais tu n'es pas contre lui. Donc la volonté de Dieu peut être ou paraître contre la volonté de l'homme, mais elle ne sera jamais contre l'homme. Alors, de ce qui précède, donc ces quatre phrases, je me suis posé des questions et ces deux questions semblent être comme les deux points de ce matin. Je me suis posé trois questions, excusez-moi. La première question, que devrons-nous faire? La volonté de Dieu est meilleure que celle de l'homme. Dieu a des moyens pour accomplir sa volonté. La volonté de Dieu est plus puissante que celle de l'homme. La volonté de Dieu peut être contre la volonté de l'homme, mais jamais contre sa vie. Alors, que devrons-nous faire? La première question. Et la deuxième question, quelle était la volonté de Dieu sur Ninive? Parce que nous parlons de la volonté de Dieu sur Ninive. Quelle était la volonté de Dieu sur Ninive? Et enfin, la troisième question, quelle était la réaction de Jonas? Quelle était la réaction de Jonas? Pour ceux qui cherchent le point, la première question, c'est notre premier point. Que devrions-nous faire? Mais la deuxième question et la troisième question forment le deuxième point. La première question, c'est le premier point. Les deuxièmes questions et la troisième question forment le deuxième point. Nous trouverons là-bas des petits points et là, nous allons trouver les réponses à ces questions. Comprenez ça comme ça. Je vous ai dit, c'est un message compliqué à préparer. Et certaines choses, je ne savais pas où il faut le mettre. Que Dieu m'aide ce matin. La première question, que devrions-nous faire? Que devrions-nous faire? À cette question, je vais tenter à donner des réponses. La première réponse par rapport à la première question, que devrions-nous faire? Nous devrons connaître la volonté de Dieu. Nous devrons connaître la volonté de Dieu. Que devrions-nous faire? Notre Père qui es aux cieux, numéro 27. Pasteur Maurice a dit ceci. Tous ceux qui appellent Dieu Père doivent savoir que leur Père a une volonté. Tous ceux qui prient, qui appellent Dieu Père doivent savoir que leur Père a une volonté. La première des choses à faire, il faut connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. Ninive était la plus grande ville de l'Antiquité, mais aussi la capitale de la Syrie. La capitale de la Syrie. Et les habitants de la Syrie, c'est les Assyriens. La Syrie était un pays païen. Pourquoi païen? Parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est tout peuple qui n'était pas de la nation israélite était considéré comme des païens. Aujourd'hui, si tu n'as pas Christ, tu es païen. Mais dans l'Ancien Testament, toutes les nations en dehors d'Israël sont des païens. Et la Syrie était un pays païen. Non seulement un pays païen, mais c'était un pays qui était en guerre permanente avec Israël. Et non seulement un pays qui était en guerre permanente en Israël, la Syrie était aussi un pays, les habitants étaient cruels dans ce pays. Ils faisaient des choses, vous ne pouvez même pas imaginer, des choses même pas à comparer avec Sodome et Gomorrhe. Il y avait tellement beaucoup de temples, beaucoup de choses mal qu'ils faisaient là-bas. Mais c'est là où Dieu va envoyer Jonas. Mon frère, ma sœur, Dieu a une volonté que nous devons connaître. Dieu a une volonté. Vous savez que tu ne peux pas plaire à un homme si tu ne connais pas sa volonté. Tu ne peux pas plaire à ton maître, à ton Dieu, si tu ne connais pas sa volonté. Tu ne peux pas plaire à ton maître si tu ne connais pas sa volonté. Tu peux même faire une chose, croyant que c'est bon, mais si ça ne cadre pas dans sa volonté, ce n'est pas bon. C'est ainsi que nous avons l'intérêt de connaître la volonté de Dieu. Notez cette phrase. Pour Dieu, toute bonne chose en dehors de sa volonté est une mauvaise chose. Toute bonne chose en dehors de sa volonté est une mauvaise chose. C'est compliqué, mon frère, mais tu marches avec Dieu, il faut connaître sa volonté. Tu peux plaire à ton chef, mais si tu ne connais pas sa volonté, certaines choses que tu feras, tu croiras que c'est bon, mais comme ça n'a rien à voir avec sa volonté, il trouvera ça mauvais. Dieu demande à Saül de frapper Amalek, de tuer les habitants d'Amalek, n'épargner aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun vieillard, même pas un nourrisson, et même pas les animaux. Dieu a donné un ordre. Il dit à Saül, va, fais ça. Pourquoi Dieu va demander à Saül de le faire? Parce que l'histoire nous rappelle dans Exode chapitre 17 qu'à la sortie des enfants d'Israël, le premier ennemi qu'Israël avait rencontré, c'était les Amalécites. Les Amalécites étaient venus combattre les enfants d'Israël dans Exode 17. Et beaucoup d'années passées, Dieu va se rappeler de cela. Quand les Amalécites se sont venus combattre Israël, Israël était faible. Et beaucoup d'années passées, Israël devient fort et Dieu demande à Israël de combattre les Amalécites. Faites attention lorsque vous combattez les hommes faibles aujourd'hui. Faites attention lorsque vous combattez les hommes faibles aujourd'hui. Parce que lorsqu'ils vont devenir forts, vous ne savez pas comment ils vont réagir contre vous. Et Israël marchait avec Dieu. Dieu s'est rappelé. La deuxième leçon, Dieu oublie le péché de cet homme qui s'est repenti. Dieu oublie le péché de cet homme qui s'est repenti. Plusieurs années passées, mais Dieu s'est rappelé. Il demande à Saül, va, combattu, n'épargne rien. Mais malheureusement, Saül va. Il va combattre. Il va combattre. Il va épargner premièrement Agag. Agag, c'est le roi d'Amalek. Non seulement Agag, il va épargner aussi le meilleur bête, le meilleur bœuf, les agneaux. Il va épargner. Et Samuel va irriter contre lui. Mais pourquoi tu as fait ça? Saül, pourquoi tu as fait ça? Ce qui m'a fait mal, Saül avait reconnu qu'il avait écouté la voix de Dieu. Saül dit, j'ai bien entendu, j'ai bien écouté la voix de Dieu. D'ailleurs, j'ai suivi le chemin qu'il a tracé pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas la seule personne à parler. Le peuple aussi parle, les diables aussi parlent. Mais sur le chemin tracé par Dieu, si tu mélanges la voix de Dieu et la voix du peuple, tu n'iras nulle part. Parce que la voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu. Saül avait écouté, mais il a mélangé avec la voix du peuple sur le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Il dit, j'ai écouté la voix de Dieu. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Mais seulement Agag j'ai épargné et le meilleur. Et il pose encore la question à Samuel pour dire, est-ce que j'ai mal fait? Parce que le bête là c'est pour offrir à Dieu. D'ailleurs, Nazu, oh, il y a ma foute, il y a mon pendant balinaka. Est-ce que j'ai mal fait? Logiquement parlant, humainement parlant, entre celui qui tue et celui qui épargne, qui fait bien? Celui qui épargne. Mais comme ce n'était pas dans la volonté de Dieu, cet homme était rejeté plus tard. Toute bonne chose en dehors de la volonté de Dieu n'est pas forcément une bonne chose. Elle est bonne quand elle est recommandée par Dieu. Elle est bonne quand elle est acceptée par Dieu. Elle est bonne quand elle est dictée par Dieu. Elle est bonne quand elle est dans la volonté de Dieu. Maintenant, renversons un peu la phrase. Si toute bonne chose en dehors de la volonté de Dieu est une mauvaise chose, nous pouvons tenter de dire toute mauvaise chose dans la volonté de Dieu est une bonne chose. c'est compliqué. Quand j'ai compris ça, moi aussi j'ai dit, mais comment ça? C'est vraiment compliqué, maman. Vous avez raison, c'est vraiment compliqué. Je n'ai rien compris. Ce que j'ai compris seulement, c'est qu'il marche avec Dieu. les serviteurs qui marchent avec Dieu, eux aussi finissent à être compliqués. Parce que comme Dieu leur demande parfois des choses compliquées, eux aussi finissent à être compliqués. Tout ce que j'ai compris, c'est ça. Dieu va approuver la demande de Sarah. Quelle demande? Chasse ton fils Ismaël. Lisez le texte. Abraham a eu très mal dans son cœur. Abraham a eu très mal. Mais Dieu lui dit, fais ce que ta femme te demande. Fais ce que ta femme te demande. C'est vraiment compliqué. C'est pourquoi nous avons l'intérêt de connaître la volonté de Dieu. Sinon, nous verrons toujours certaines personnes compliquées. Non parce qu'ils sont compliqués, mais parce qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu que vous, vous ne connaissez pas. C'est pourquoi que vous les voyez compliqués. Nous devons connaître la volonté de Dieu. C'est compliqué, mais nous devons connaître la volonté de Dieu. Ils ne deviennent pas compliqués parce qu'ils sont compliqués, mais parce qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu que nous, nous ne comprenons pas et nous les traitons de compliqués. La première des choses, que devons faire? Connaître la volonté de Dieu. Israël, Assyrie, mais c'est deux pays ennemis. Deux pays qui ne s'attendent pas. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et Jonas s'attendait à la mort des Assyriens. Beaucoup plus des Ninivites. Mais Dieu dit, non, j'ai une volonté. Tu dois connaître cette volonté. Saül dit, non, les animaux, si c'est pour l'offrande, Dieu aime l'offrande. J'aimerais le faire, c'est ça que Dieu aime. Mais est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Vous savez qu'avoir beaucoup de courage sans le discernement, ici, il se touche. Avoir beaucoup de courage sans le discernement, même si tu as l'onction, il aussi il se touche. Et des fois, on est poussé par certains courages, mais tellement au bout, non, 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 il faut avoir le discernement. Ce que j'aimerais faire, est-ce que c'est vraiment dans la volonté de Dieu? L'onction est là, c'est vrai, mais le discernement t'aidera à connaître ou à maîtriser de faire des choses selon la volonté de Dieu. Ça, il dit, poussé par son courage, ouais, et beaucoup de courage, je vais faire ça pour Dieu. Mais c'était en dehors de la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, que devrions-nous faire? Et cette connaissance n'est pas une simple information. Je connais la volonté de Dieu. Non, parce que Saül avait dit, j'ai bien écouté. Quelque part, il avait l'information de la volonté de Dieu. Jonas aussi savait, il connaissait la volonté de Dieu. Mais la deuxième des choses à faire, c'est quoi? C'est accepter et vivre la volonté de Dieu. Tu peux connaître une chose, mais l'accepter et la vivre t'aidera à avoir une expérience dans cette chose. Connaître la volonté de bien, c'est une information. Mais quand vous avez cette information, qu'est-ce que nous faisons ensuite? Est-ce que nous acceptons cette volonté? Est-ce que nous vivons cette volonté? Est-ce que nous sommes prêts à accepter cette volonté? Est-ce que nous sommes prêts à vivre cette volonté? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un vrai bonheur sur la terre en dehors de la volonté de Dieu. Tu peux avoir tout ce que tu as là, mais si c'est en dehors de la volonté de Dieu, tu ne vivras pas le vrai bonheur. Il faut accepter, il faut vivre la volonté de Dieu. Tu as de la connaissance, c'est vrai, mais il faut accepter. Parce que beaucoup connaissent la volonté, mais ne font pas la volonté de Dieu. Beaucoup connaissent la volonté, mais ne les font pas. Or, aucun homme sur la terre ne peut vivre le vrai bonheur en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez encore noter cette phrase. Si ta vie est le résultat de la volonté des hommes, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Mais si c'est la volonté de Dieu, partout où tu seras, le Seigneur sera avec toi et tu seras à l'aise. Tu seras comme Paul. Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 4, le verset 12. La technique peut nous aider parce que nous allons lire ça dans trois versions. Version 8 secondes, Paul dit ceci aux Philippiens. 4, le verset 12. Philippiens 4. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris, souligné, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. La version Darby. Voilà, je prends seulement la partie qui me concerne ici. Je suis enseigné aussi bien. Je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim aussi à être dans l'abondance qu'à être dans la privation. Je suis enseigné aussi bien. Enseigné, nous parlons de l'enseignement. Et dans l'enseignement, il y a quatre choses. Il y a la matière, il y a le maître, il y a l'élève et il y a les cadres. Et la version Saint-Mère dit ceci. C'est le secret que j'ai appris à être rassasié et à vivre dans l'abondance. Je ne suis pas né avec ça, mais c'est ce que j'ai appris. Celui qui marche dans la volonté de Dieu sera enseigné par Dieu lui-même. Et à comment vivre dans les temps, dans les circonstances et partout où il sera. Mon frère, celui qui marche dans la volonté de Dieu, même si tu te retrouves dans la souffrance, Paul en prison n'a pas pleuré, mais il a loué Dieu. Là où les gens attendent te voir pleurer, mais comme toi tu sais que c'est dans la volonté de Dieu, tu loueras l'Éternel notre Dieu. Là où les gens entendent te voir peut-être murmurer, mais comme toi tu sais, c'est dans la volonté de Dieu. Paul dit, j'ai appris, le Seigneur m'a enseigné ça. J'ai appris, ce n'est pas né, mais je ne suis pas né avec ça. Appris, c'est le passé, c'est le participe passé du verbe apprendre. Et apprendre, c'est conquérir une connaissance auprès d'eux ou au travers d'eux. Donc, Paul a appris ça auprès de Dieu. Mon frère, reste dans la volonté de Dieu et tu verras la matière que le Seigneur va t'enseigner. Et cette matière t'aidera à vivre, il dit, partout et pour tout, partout, j'ai appris. Dans des circonstances, j'ai appris. Dans la misère, j'ai appris. Dans l'abondance, j'ai appris. Dans la joie, j'ai appris. Dans la disette, j'ai appris. Dans l'humiliation, j'ai appris. Pourquoi? Parce que Paul était dans la volonté de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur désire t'enseigner. Et cela est possible lorsque tu es dans la volonté de Dieu. La première des choses, connaître. Mais la deuxième réponse, que devrons-nous faire? Nous devrons accepter et vivre dans la volonté de Dieu. Quand tu vis dans la volonté de Dieu, le Seigneur t'enseignera la manière de vivre. Et un homme qui vit dans la volonté de Dieu ne regrette jamais, peu importe les mauvaises situations devant lui. S'il sait que dans la volonté de Dieu, mon frère, ma sœur, ne te manque pas un homme qui traverse une situation dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu est capable de faire de sa visitation un refrain d'une chanson. Vous savez, une chanson ne commence jamais par un refrain, généralement. Le refrain vient au milieu. Mais le refrain accompagne la chanson jusqu'à la fin. Le refrain vient au milieu. Celui qui marche dans la volonté de Dieu, même si au début, là, tu vois la souffrance, la visitation est peut-être au milieu. Mais quand la visitation vient au milieu, ça l'accompagne jusqu'à la fin. Ce que j'aime encore, c'est quoi? Des fois, la partie la plus facile, simple à maîtriser et à chanter, c'est les refrains. Les chansons peuvent être difficiles à chanter, mais on chante facilement les refrains. J'ai un petit à la maison, le début, il ne dit pas rien, mais quand les refrains, moi je n'ai que Jésus, là 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 là, tout ce qu'on dit là, ça ne lui intéresse pas. Vous savez, quand Dieu, l'homme marche avec Dieu dans sa volonté, la souffrance là sera comme le couplet, les gens vont oublier. Mais la visitation autant marquée sera le refrain que les gens ne vont pas oublier. Et même un petit enfant peut chanter cela. Pourquoi? Parce que c'est, mon frère, reste dans la volonté de Dieu. Même si tu vois au début là, c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué. Mais reste dans la volonté de Dieu. Connaître, accepter et vivre dans la volonté de Dieu. Même si la chanson est en anglais, on ne connaît rien, mais les refrains nous chantons quand même. Oh, que Dieu fasse de ta visitation un refrain. Ça ne commence pas au début, au milieu, mais ça accompagne la chanson jusqu'à la fin. On peut changer quatre couplets dans une chanson, mais on reste toujours avec le même refrain. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Et les chansons, on oublie facilement, mais les refrains restent gravés. Que devrons-nous faire? La première des choses, il faut connaître la volonté de Dieu. La deuxième des choses, il faut accepter et vivre la volonté de Dieu. Alors, quelle était la volonté de Dieu sur Ninive? Quelle était la volonté de Dieu sur Ninive? Et quelle était la réaction de Jonas? Parce que Jonas connaissait la volonté de Dieu. Jonas 1, le verset 2, et Jonas 4, le verset 11, ces deux versets nous dévoilent la volonté de Dieu. Dans Jonas chapitre 1, le verset 2, Dieu dit à Jonas, lève-toi et crie sur Ninive, car la méchanceté est montée jusqu'à moi. Ce n'est pas seulement nos prières qui montent jusqu'à Dieu. Ce n'est pas seulement nos prières. Dans Proverbe 15, 3, la Bible dit, Dieu est dans les cieux, observant sur la terre le bon et le méchant. Il dit, la méchanceté est montée jusqu'à moi. Va et crie. Crie sur Ninive. Parle-les. Jonas 4, le verset 11, Dieu va conclure en disant que, mais Jonas, j'ai pitié de Ninive. Toi, tu as pitié de ses racines, mais moi, j'ai pitié de Ninivites. Il y a des habitants là-bas. Je leur ai donné occasion de donner leur vie en Jésus-Christ. Mon frère, même quand Dieu est prêt à te punir, il te donne toujours l'occasion. Et c'est l'homme qui saisit cette occasion, c'est l'homme qui est épargné de la conséquence qui était prévue par Dieu. Il dit, c'est vrai, j'avais une décision contraire à ce que j'ai pris maintenant là, mais c'est ma volonté. Jonas dit, bon, tu es souverain. Tu es souverain. Moi, je voulais que les Ninivites meurent. Parce que j'avais déjà déclaré que ce que vous faites, là, vous allez mourir avec ça. Bon, comme toi, tu es Dieu, tu es le souverain. Fais ce que tu veux, mais tu ne le feras pas moi. Jonas va fuir à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Bon, ce que j'ai trouvé encore compliqué, Dieu pouvait même susciter un prophète parmi les Assyriens. Parce que c'est ce qu'il faisait toujours avec Israël. Vous êtes dans le péché, il suscite un prophète parmi vous. Mais pour le cas des Assyriens, Dieu n'a pas suscité un prophète. Mais il est allé en Israël. Il a vu Jonas. Il dit, c'est toi qui peux aller là-bas. C'est là où était encore plus compliqué avec Jonas. Bon, tu es souverain, fais ce que tu veux. Tu peux même susciter quelqu'un. Mais non, tu me demandes encore d'y aller. Et Jonas, au chapitre 1er, va détourner. Il a entendu la voix, mais il va prendre une autre direction. Tarsis est une direction opposée à Ninive. Ce n'est pas comme Congo Kinshasa et Congo Brazza qui est face à face. Non, mais c'est vraiment une direction opposée. Aller à gauche, lui va à droite. Et au milieu de son voyage dans les bateaux, Dieu va souffler un vent pour menacer les bateaux. Quelque part, c'est pour interpeller Jonas de prendre conscience. Le pilote était là, les gens étaient là dans les bateaux. Ils ont en train de prendre les voies et moyens pour épargner les dangers, pour être épargnés au danger. Mais Jonas était là dans la cave à Fandi Naï. C'est comme un homme qui dit, problème Nabino, ils ont problème Nangati. Or, il ne sait pas, en cas de naufrage, Naïom Tozolo a problème Naïote, il ne se beaucoup. Jonas était là comme si ce qu'il y a, ça ne me concernait pas. Il était là. Le pilote fait tout. Ils vont même jeter les biens pour aider quand même le bateau à bien continuer. Mais ça n'a pas tenu. Parce que nous avons dit, Dieu a toujours les moyens pour accomplir sa volonté. Ça n'a pas tenu. Jonas est resté dans son coin. Les gens sont venus parler à Jonas. Jonas, peut-être, il se disait, ah non, le Seigneur ne va rien faire. Parce que dans ce bateau, il y a des innocents. Le Seigneur ne va rien faire. Parce que dans ce bateau, il y a des enfants. Le Seigneur ne va rien faire. Parce que dans ce bateau, il y a des commerçants. Il y a même des marchandises. Le Seigneur ne va rien faire. Est-ce que le Seigneur va accepter vraiment de faire périr tous ces gens-là à cause de moi seulement? Non. Si j'étais seul, il pouvait même arriver jusque-là. Mais comme je suis entouré par des gens, je crois que les autres feront que je sois épargné de la colère de Dieu. C'est ce que Jonas pensait. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Il est amour. Il est là à la colère. Riche en bonté. Mais Dieu n'est pas sentimental. Dieu n'est pas sentimental. S'il faut perdre certaines choses pour accomplir la volonté de Dieu, Dieu n'est pas sentimental. S'il faut perdre quelque chose pour accomplir la volonté de Dieu, Dieu n'est pas sentimental. Jonas disait, est-ce que vraiment les commerçants vont perdre vraiment leur bien? Et Jonas a assisté à la perte de bien. Ils ont tout jeté. Ils sont restés avec rien. Jonas dit, non, ça devient sérieux. Bon, c'est vrai, c'est moi. Enfin, il va avouer que c'est moi. Le pilote nous propose, prie le Seigneur, peut-être il va nous éloigner cette peine. Jonas dit, non, jette-moi. Jésus était prêt à mourir à la croix pour sauver l'humanité entière. Mais Jonas était prêt à mourir sur la mer pour laisser les Ninivites mourir dans le péché. Mon frère, ne remplacez pas l'amour de Jésus à quelqu'un d'autre. Ne remplacez pas l'amour de Dieu à quelqu'un d'autre. Jonas dit, non, je ne prierai pas. Jette-moi. Mais la conséquence, là, doit atteindre les Ninivites. Jonas a refusé. Et la suite, Jonas va aller. Il se jette. Il se jette. Le chapitre 2, Jonas va prier. Mais comment rendre la tâche difficile? Tu étais là-bas, on t'a demandé de prier, tu n'as pas prié. Mais tu es coincé dans l'eau, tu pries. Jonas va prier. Seigneur, si tu me remontes, je ferai ta volonté. Mais pourquoi ne pas prier quand tu étais là-bas? Que nos camarades, bon, ils s'en remplacent là. Où tu n'as qu'un écart. Mon frère, Dieu a tous les moyens nécessaires pour accomplir sa volonté. Et quand Dieu utilise la pression, ça coûte toujours cher à l'homme. Pourquoi ne pas seulement prier? Mais Jonas, il refuse. Il dit non. Mais là-bas, il prie. Oh, Jésus. Et Dieu a exaucé sa prière au chapitre 3. Jonas va pour aller prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai dit, la volonté de Dieu peut être contre ta volonté, mais jamais ça sera contre ta vie. Jonas avait peur. Premièrement, les Assyriens, entre guillemets, étaient leurs ennemis. Deux, la Syrie, c'était une grande ville. La Ninive, c'était une grande ville. On dit même, pour parcourir toute la ville, il faut faire au moins 3 jours de marche. Et en plus, Jonas voyait la gravité de la cruauté de quoi? Bon, la gravité de Ninivite. Il se disait, comment je vais aller? Mais écoutez, Jonas, au chapitre 3, il va à Ninive. Au lieu de marcher 3 jours, il a parcouru toute la ville en un seul jour. Il n'a pas tenu un séminaire. Il a dit seulement une phrase. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les résultats, toute la vie convertie. Toute la vie. La volonté de Dieu peut paraître difficile au début, mais à la fin, Dieu te facilitera la tâche. Reste seulement dans sa volonté. Reste seulement dans sa volonté. Ce qui nous fait peur, c'est de commencer parce qu'au départ, là, c'est difficile. Vous savez, quand Dieu a donné le bélier à Abraham, ce qui m'a fait du bien, Abraham a trouvé le bélier était attaché. Dieu dit non, au tambour, déjà 3 jours. Ceux qui ont détaché, au Roki, Masus Bambar, non. Il a facilité Abraham tâche. Il a trouvé le bélier déjà attaché. Abraham a fait seulement un pas, deux pas à Fongo, Lipé, à Sali. Oh, il fallait à Salana. Même si c'est difficile au début, si c'est la volonté de Dieu, rien ne prouve que la fin sera aussi difficile. Rien ne prouve. En un seul jour, Jonas a parcouru toute la vie. Il n'a pas tenu un séminaire. Il a dit seulement une phrase. Et lui-même était étonné de voir les résultats. Tout ce qui commence difficile ne termine pas forcément difficile si tu es dans la volonté de Dieu. Maintenant, ce qui me fait encore mal, c'est quoi avec Jonas? Au lieu de se réjouir, Jonas va s'énerver. Ah, pourquoi? Pourquoi? Bref, l'histoire de Jonas du 1er au 4e chapitre, ça commence par un acte de désobéissance et ça se termine par un regret. Donc, ça commence mal. Et ça s'est fini mal. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment tu as commencé cette année. Mais c'est possible que tu arranges avec Dieu pour que tu termines bien. Peut-être que tu avais mal commencé. Mais tu peux bien finir cette année avec le Seigneur. Et 2025 qui est en face de nous, tu n'es pas obligé de commencer mal quand tu as la possibilité de commencer bien. Tu peux aussi bien commencer et bien finir. J'étais en colère contre un frère un jour, beaucoup d'années passées. On avait une activité d'une semaine. Le lundi n'était pas là. Le mardi non plus. Il vient le dernier jour. Et il me dit, mieux vaut la fin que son commencement. J'ai dit, mon frère, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais ce n'est pas dans ce contexte. C'est mal employé. Parce que même le commencement là n'était pas moindre que la fin. Mais aussi, tu avais la possibilité d'être là au commencement. Pourquoi attendre seulement la fin tandis que tu as la possibilité de bien commencer? Dieu est capable de faire de nous une génération de ceux qui commencent bien et de ceux qui terminent bien. Ça peut être même ton sujet de prière. Je ne sais pas comment tu as commencé cette année, mais l'année prochaine, tu peux dire, Seigneur, aide-moi à bien commencer. Et amène-moi à bien terminer. Jonas a commencé dans un acte de désobéissance et il a fini son histoire dans un regret. Malheureusement, son histoire s'est arrêtée là où, en principe, ça ne devrait pas s'arrêter. Parce que Betali Solo, Jonas Matate Lekiming, c'est toi, l'auteur à l'objet, en tout cas, Tarali Solo. C'est comme ça l'histoire de Jonas est finie. Bon, ça t'est dit. Bon, Dieu fait tout pour faire comprendre Jonas. Jonas ne comprend pas. Ah, bon, en tout cas, Tarali Solo. Mon frère, ne l'incolinga dans un bacatarali solo nao. Non, parce qu'il y a des meilleurs qui t'attendent devant. Jonas. C'est une histoire qui commence mal, qui termine mal. Avant de quitter les toits paratas, mes parents m'avaient donné toutes les raisons nécessaires pour que je reste chez eux. Ici, tu ne vas pas payer le loyer. Voilà, là, au fêlé. Eh, on a la chambre, on a l'Ibanda. On fout ta facturité. Moi, mon salaire, on a fout combien? Ils ont minimisé même les salaires. Moi, il faut l'habillement. Il faut l'habillement. Bon, finalement, les parents vont accepter. Ils ont regardé là où j'étais. Ils ont trouvé, bon, quand même, aller avec les faibles de commencement, je suis parti. Quelques temps après, un frère de la famille va apprendre que je loue une chambre salon à Siliki. Non, mon ami, pas le baba n'a rien à te. J'ai dit, oh papa, ce n'est pas un quartier résidentiel où chambre salon peut coûter 1 500 $. Non. Ça, au tali quartier, ça coûte rien. Lui, ce n'était pas ça. Lui voyait seulement, tu as commencé avec chambre salon. Parce que lui, dans sa mentalité, moi, la mobile, il faut abandonner dans mon studio. Et après, dans mon studio, moi, mon naine, mais au divisé dans mon rideau. Et après, dans la chambre et salon. Mon frère, si tu as la possibilité de commencer même avec 3 chambres et salon, cousine, salle de bain, commence bien. Commence bien. Commence bien. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi de bien commencer. Il était en colère. Je dis, ça dans l'émission monte. Bon, mes voisins sont là. Je ne vais pas citer les quartiers parce que les voisins sont là. Je dis, si je vous dis les quartiers, les montants, ça rien. Non, Obani Mabé. Mon frère, commence bien. Commence bien dans le Seigneur. Jonas était comme ça. Jonas, son histoire commence mal et se termine mal. Mon frère, tu peux arranger avec Dieu. Si tu avais mal commencé, et de bien terminer avec le Seigneur. Et pour 2025, tu peux bien commencer et bien terminer. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il faut éviter. Dans les deuxièmes points, nous sommes en train de tenter de répondre à la question quelle était la volonté de Dieu et quelle était la réaction de Jonas. Nous avons compris déjà la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est Paul qui dit à Timothée que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance du salut. C'était la volonté de Dieu. Et Jonas avait une autre réaction. Jonas avait une autre réaction. Un homme qui vit sur la terre, mais il est la volonté d'un homme qui est dans les cieux. Et Dieu a tous les moyens pour accomplir sa volonté. Alors, ce qu'il faut éviter dans ce deuxième point, c'est quoi? Il ne faut jamais mélanger, comme je l'ai dit, la voix de Dieu avec la voix du peuple ou des hommes. C'est ce que nous avons vu avec Saïd. Il a mélangé. C'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter aussi de faire une chose par contrainte comme Jonas. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande de faire sa volonté. Une volonté totale et pas une volonté partielle. Saïd avait fait la volonté de Dieu, mais c'était une volonté partielle qui a tout annihilé. Dieu lui demande de faire quoi? De tuer et de ne pas épargner. C'était difficile. Mais Saïd a fait une partie. Et il a abandonné une autre partie. Ce que Dieu nous demande, malgré la réaction que nous pouvons avoir à gauche, à droite, ou malgré les réactions que les autres peuvent avoir pour nous, ce que nous devons faire, c'est de faire la volonté de Dieu et une volonté totale. C'est ce que Dieu nous demande à faire. Généralement, il est difficile de faire ce qui est difficile et facile de faire ce qui est facile. Mais en ce qui concerne la volonté de Dieu, Dieu veut que nous fassions sa volonté, même dans des choses faciles, tout comme dans des choses difficiles. Tuer, ce n'est pas facile de le faire. Prendre ton fils Isaac, donner comme offrande, ce n'est pas facile de le faire. Aller prêcher tes ennemis, ce n'est pas facile de le faire. Mais ce que Dieu veut, que nous fassions sa volonté. Quand c'est facile, et même quand c'est difficile, que nous fassions sa volonté. Mon frère, ma sœur, Dieu ne nous demandera pas toujours des choses faciles à faire. Dieu ne nous demandera pas toujours des choses faciles à faire. Et si Dieu te demande ce qui est difficile, mets dans sa volonté. Continue. Continue, mon frère. Continue encore, ma sœur. Et pour terminer, comme je vous ai dit au départ, la volonté de Dieu est toujours meilleure que celle de l'homme. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, Dieu dit, et ce n'est pas assez, nous allons lire, Matthieu chapitre 7, le verset 21, que ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La phrase commence par « c'est », mais la suite, ça finit par « c'est lui ». En ce qui concerne la volonté de Dieu, il n'est pas question de groupe, mais il est question de « c'est lui ». C'est, mais c'est lui-là qui fera la volonté de Dieu. Saül avait commencé, mais il a mélangé les choses de Dieu avec la voix des autres. C'est, mais c'est lui-là qui fera ma volonté, c'est celui-là. Donc la volonté de Dieu concerne, est une question de celui-là et non de ce. La version parole vivante dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Car nous vivons sur la terre, pour finir, non pour finir sous la terre, mais nous vivons sur la terre pour finir dans les cieux. Et pour y arriver, nous devons connaître la volonté de Dieu, accepter la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu, même dans des choses faciles, tout comme dans des choses difficiles. Que Dieu bénisse sa parole. Oh Jésus. Pendant quelques minutes avant de céder le micro, tu vas prier pour demander à Dieu, aide-moi, 2025 est devant moi, aide-moi de bien commencer, Seigneur. J'aimerais bien commencer avec toi. Je ne sais pas comment tu as commencé cette année. Pour ces deux jours qui sont restés, tu peux bien finir. Ne sois pas comme l'histoire de Jonas qui a mal commencé et mal fini. Commencer par un acte de désobéissance et une histoire qui se termine par une discussion avec Dieu, par un regret. Que ce matin le Seigneur nous aide. Je ne sais pas comment tu as commencé cette année, mais pour les deux jours qui sont restés, tu peux bien en finir. Et l'année prochaine, tu peux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à bien commencer. Aide-moi à bien commencer. Je ne sais pas dans quel domaine, mais c'est possible que tu commences bien et tu termines bien aussi avec le Seigneur. Oh Jésus, aide-moi.